Frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en cette église Saint-Julien de Sazos, alors qu'avec toute l'église, nous faisons mémoire de l'épiphanie, de la manifestation de Dieu, de cet enfant Dieu, qui n'est plus seulement le sauveur d'un peuple, celui d'Israël, mais révélé comme le sauveur de toutes les nations. Si au jour de la nativité, les anges ont annoncé la naissance du Messie tant attendu et leur ont annoncé que ce Messie n'était pas un homme parmi tant d'autres ou un prophète, mais était le Fils de Dieu fait chair, ils se sont rendus à la crèche pour l'adorer. La première révélation a été faite au peuple d'Israël, le peuple élu entre tous pour être dépositaire de la révélation, mais tout autant l'annoncer au monde entier, ce qu'ils ne firent guère. La venue de ces mages, venant d'Orient et n'appartenant pas au peuple juif, manifeste qu'ils sont eux aussi concernés par la naissance de cet enfant. Ils ont vu se lever une étoile. Pour nous, une étoile est une étoile. Mais l'étoile, dans la tradition biblique, est le symbole de la royauté. L'étoile est à Israël ce que la fleur de lys est à la France. Voir une étoile se lever, c'est donc reconnaître que le roi d'Israël, le Messie tant attendu, vient de naître. Et voilà des mages venant d'autres contrées, arrivant à Jérusalem et demandant à celui qui a usurpé la couronne à force de pots de vin, le roi Hérode, qui n'a cessé de faire des courbettes auprès du Sénat romain et qui, exceptionnellement, a reçu le titre de roi d'Israël alors que les Romains ne décernaient le titre de roi qu'aux anciennes dynasties ayant effectivement régné. Voilà pourquoi le roi Hérode convoque ses mages à grand-peur et va demander aux prêtres d'Israël, car il n'y entend guère, « Où doit naître ce roi Messie ?» Pourquoi Jérusalem tremble à la naissance de cet enfant? Parce qu'ils connaissent avec quelle virulence et fureur le roi Hérode gouverne. C'est celui-là même qui, ensuite de la visite des mages, fera abattre tous les enfants de moins de 2 ans de la contrée de Juda. Il n'avait déjà eu guère peur de se débarrasser des gens de sa famille, de tous ceux qui aurait mis un peu d'ombre à sa couronne dérisoire. « J'irai, moi aussi, me prosterner devant lui, mais averti en songe, ses mages rentrent chez eux par un autre chemin. » Pour nous, ce mystère de l'épiphanie nous concerne, car nous ne sommes pas membres du peuple juif, nous faisons partie de ce que l'on appelle dans l'Église des nations. Eh bien, voilà que ces 3 rois mages ont représenté au Moyen-Âge, où l'on ne connaissait que 3 continents, un représentant de chaque continent connu pour manifester que toutes les nations sont appelées à reconnaître que notre Seigneur Jésus le Christ est l'unique Sauveur. Ces mages, qui donc sont habités par cette recherche de Dieu, préfigure également ce qui, à l'intérieur de nous-mêmes, est manifeste. Nous aussi, nous avons à voir en nous-mêmes l'étoile de Dieu se lever, la suivre pour adorer le bon Dieu, pour, à travers nos épreuves qu'il a portées sur le bois de la croix, eh bien, ouvrir pour nous les portes de la vie éternelle. Le pape Benoît XVI, que nous avons enterré cette semaine avec toute l'Église, nous disait dans son Jésus de Nazareth, au sujet de cette venue des mages, la citation suivante. « Les savants de l'Orient sont un commencement. Ils représentent la mise en route de l'humanité vers le Christ. Ils inaugurent une procession qui parcourt l'histoire tout entière. Ils ne représentent pas seulement les personnes qui ont trouvé le chemin au Christ, ils représentent l'attente intérieure de l'esprit humain. » Nous aussi, à bien y réfléchir, nous savons que notre vie est éphémère et nous avons à nous interroger. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pour quelle raison ai-je été placé ici-bas sur la terre? Puisse l'étoile se lever en votre âme et puissiez-vous, à la suite des mages, suivre cette conscience droite, suivre l'héritage de nos pères qui avaient placé leur foi dans le Christ, nous conduire jusqu'à l'enfant Dieu. Il n'enlève rien, nous précisait le pape Benoît, mais au contraire, il donne tout, la paix et le bonheur véritable, comme cette vie éternelle promise à nous-mêmes, comme à tous nos fidèles défunts, et à l'occasion de cette fête patronale, nous emportons en cette messe tous ceux qui, en cette terre de Sazos, de chaque côté de cette église, reposent. Nous faisons mémoire en ce village de Saint Julien. Voilà qui rend la tâche difficile aux prédicateurs. Parce que nous ne savons pas grand-chose sur la vie de Saint Julien. Si ce n'est qu'au IVe et Ve siècle, Saint Julien connut un culte fulgurant. Saint Julien est un patricien romain, c'est-à-dire un héritier d'une famille ancienne de la ville de Rome, répondant au nom des Julia, ou encore appelés les Julii, notre mois de juillet porte le nom de cette famille de patriciennes, puisqu'elle a connu l'avènement de Jules César, qui était lui aussi de la famille des Julii. Julien se rend à la chasse. Le seul trait de sa vie nous est rapporté par la légende dorée. Rien que le titre de cet ouvrage en vogue au Moyen-Âge nous permet à nous, qui avons un rapport à l'histoire différent, d'être prudents. Julien se rend à la chasse et alors qu'il voit un beau cerf et qu'il est prêt à l'abattre, le cerf, qui dans l'imagerie médiévale est une image du Christ, se met à lui parler, lui déclarant « Comment, Julien, tu vas me tuer ?» alors que toi-même vas tuer tes propres parents. Non seulement le cerf a parlé, mais ce qui lui a dit l'a tellement déconcerté qu'il laisse la bête s'enfuir, mais décide, pour ne pas avoir à commettre un tel parricide, matricide, eh bien de s'échapper. C'est un peu, pour ceux qui ont quelques lettres grecques, le mythe d'Œdipe réécrit. Il avait été annoncé à Œdipe qu'il tuerait son père et coucherait avec sa mère dans les temps anciens. Et quoi que Œdipe ait pu faire dans sa vie, le fatalisme du paganisme grec est manifeste. Il couchera avec sa mère et tuera son père. Saint Julien n'en arrive pas là. Il est parti, il s'est marié, il s'est installé dans une cité bien loin de la sienne. Mais voilà que ses parents, aimant profondément cet enfant, n'ont eu de cesse de le rechercher. Et un jour, son épouse, Julien étant absent, accueille deux pèlerins. Ils dévoilent leur identité, il s'agit du père et de la mère de son époux. Alors elle les accueille et leur offre leur hospitalité. Elle leur offre même d'occuper la chambre qu'avec Julien, elle occupe. Julien rentre à la maison, ne connaissant rien de toute cette histoire, n'ayant pas vu son épouse. Et il voit un homme et une femme dans son lit, pensant que sa femme infidèle le trompait, décida donc de les tuer immédiatement l'un et l'autre. On pourrait penser que, encore une fois, le fatalisme grec s'abat sur Saint Julien. Saint Julien est horrifié de ce qu'il a fait lorsque son épouse lui annonce qu'il s'agissait de son père et de sa mère. Et il n'aura alors de cesse d'ouvrir sa maison pour accueillir tous les pèlerins, particulièrement les plus pauvres, qui viendront se rendre à la ville de Rome ou en quelques lieux de pèlerinage. Jusqu'au jour où un pèlerin lépreux apparaît à la porte et est reçu par Saint Julien. Il s'agit du Christ qui lui dit qu'en raison de tout ce qu'il a fait de bien maintenant, ses péchés sont pardonnés. Quoi qu'il en soit de l'historicité de cette histoire, seul trait manifeste de la vie de Saint Julien, nous pouvons voir là qu'il n'y a pas de fatalisme dans nos vies. Nous ne sommes pas maudits depuis la naissance ou prédestinés à faire ceci ou cela. Le bon Dieu nous a mis sur la terre et nous offre un chemin de liberté. Même le pécheur, quel que soit son péché, n'est pas réductible au mal qu'il a pu commettre en tel acte. Notre vie est bien plus grande pour être simplement déterminée par un seul acte. Et nous voyons comment le christianisme ouvre, même aux pécheurs, un chemin de miséricorde. Ce chemin de miséricorde est celui que les mages, eh bien, ont suivi à travers cette étoile levée. Nous aussi, nous n'avons pas à nous en vouloir outre mesure, nous avons au contraire à avoir recours à la miséricorde de Dieu. Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, le martyrologe romain qui compte 15 Juliens, c'est-à-dire 15 personnes portant le nom de Julien qui ont offert leur vie à la suite du Christ, ont mis de côté le culte de Saint Julien car on ne connaît guère d'événements ou de traits essentiels de sa vie et du coup ont préféré eh bien, remplacer le culte de Saint Julien par d'autres dévotions. Ici même, le rétable de notre chère église de Sazos ne nous représente pas comme à Vieille, honorant Saint-Sylvestre, à Cerse, Saint-Vincent, à Esquiez, Saint-Nicolas, le saint patron du village. On a préféré manifester, à la suite de la consécration de la France, par notre roi Louis XIII, le 10 février 1638, placer au maître-autel l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Néanmoins, le culte de Saint Julien est un culte ancien dans l'Église. Il est le patron des pèlerins et des hospitaliers. D'ailleurs, la tradition rapporte que les hospitaliers de Saint Jean, puisque nous en avions en notre pays Toy, qui avait à Eas, à Gavarny, eh bien un lieu pour accueillir les pèlerins, comme l'église fortifiée de Luz, venaient toujours faire leur consécration devant Saint Julien. Alors que nous rendons grâce, parce que la foi est ancienne en notre contrée, le Toy ne craignant que Dieu, eh bien nous demandons à Saint Julien d'intercéder pour nous, à la Bienheureuse Vierge Marie dans le mystère de son Assomption, également de nous tendre la main, car au ciel, elle nous y attend chacun de pied ferme. Puissent donc les rois mages, Saint Julien, la Bienheureuse Vierge Marie, nous bénir ici-bas, nous fortifier en notre vie, et porter avec nous le souci de tous nos malades, comme celui de nos défunts, ainsi soit-il.